Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, fripes, sapes, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon saison 8, c'est parti! Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à entrer dans le dressing d'une femme qui m'a déclaré que la mode est un peu de beauté dans ce monde de brutes. Tout ce qui me plaît. Laura Guillermin est née à Rome et vit à Paris depuis 25 ans. Elle travaille dans le luxe et le lifestyle. Pour elle, son autre avis sur la mode est un jeu et une façon de rester vivant et enfant. Bonjour Laura.
Bonjour Valérie.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ?
Mon parcours, alors je suis née à Rome, où j'ai grandi jusqu'à mes 25 ans. J'ai fait des études d'art là-bas, en histoire de l'art contemporain. Et puis j'ai décidé à un moment donné de venir à Paris. C'est une ville qui m'a toujours plu, qui m'avait toujours inspirée. Et j'ai pris le prétexte de terminer mes études ici, le prétexte vis-à-vis de mes parents. Et donc j'ai débarqué à Paris il y a 28 ans pour terminer avec l'école du Louvre. Et ensuite, bah, j'ai trouvé le moyen de rester à Paris. J'ai rencontré l'homme qui est devenu mon mari et qui l'est depuis. Et j'ai commencé à travailler par hasard avec les trois langues que je parlais, le français, l'anglais et l'italien, dans une agence de communication. Et puis, qui était à côté de la place Vendôme, rue Saint-Honoré, à l'époque, avant Colette. J'ai vu la naissance de Colette, les travaux.
Moi aussi, figure.
Voilà. Et je me suis dit qu'à place Vendôme, il se passait des choses et que rue Saint-Honoré, il se passait des choses qui étaient très intéressantes. Et puis, j'ai continué de travailler dans la communication. J'ai commencé par des agences de RP très terrain, pas du tout dans la mode à l'époque, jusqu'au jour où on a eu à l'agence un budget qui est arrivé en communication sensible, qui était Mauboussin. Et là, j'ai découvert Place Vendôme de l'intérieur, en allant dans la salle des coffres, en voyant la création. Et je me suis dit qu'en fait, il y avait des gens qui travaillaient dans ce milieu qui me faisaient rêver. Et j'ai tout fait pour commencer, pour essayer de travailler de ce côté-là, dans ce domaine-là. C'était toujours pas la mode, mais c'était le luxe. Et puis la vie a mis un peu plus de temps pour m'y amener. Je suis arrivée à un moment donné dans une agence qui ne faisait que du produit mode, mais pas des défilés, où j'étais DG de cette agence, qui était l'agence Miroff. Et ensuite, en 2009... je suis devenue directrice communication marketing chez Cacharel. Donc, j'ai fait le grand pas. Je suis passée de l'autre côté. Et je me souviens très, très bien de mes premiers jours chez Cacharel où je dis à mon mari, j'ai l'impression de jouer à la poupée, en fait. Ou j'ai l'impression que les stylistes jouent à la poupée. J'avais l'impression... Je suis arrivée au moment des préparatifs d'un défilé et je découvrais ce monde de l'intérieur. C'était vraiment magique. C'est l'impression de ne pas travailler tout en travaillant. C'était génial. Et je suis restée 3 ans chez Cacharel à l'époque de Cédric Charlier. Et puis, de l'arrivée de Daoué, Sun et de Ling... en direction créative. Ensuite, je suis passée en mode masculine parce que je suis arrivée chez Cerruti. Donc, la découverte de l'univers masculin, toujours un repositionnement de maison, un renouveau avec une femme.
Oui, tu m'as dit que tu aimais bien reprendre des belles endormies.
C'est ça. C'est un peu mon karma, on va dire. Et puis, j'ai rencontré une femme à cette époque-là qui était la présidente de Cerruti avec qui j'ai adoré travailler, Catherine Vautrin, que je salue au passage et qui aujourd'hui est chez Ferragamo en Italie. C'est une grande femme de mode. J'ai beaucoup appris avec elle et je l'ai suivie d'ailleurs au bout de 3 ans chez Polka, quand elle est passée chez Polka. Polka qui à la base ne me faisait pas rêver particulièrement. Je suis italienne, je n'avais pas d'histoire ou d'affectif particulier avec Polka. Mais c'est un projet que j'ai adoré faire avec Catherine et on a, pareil, on a remis Polka un peu sur le devant de la scène mode avec une direction créative très intéressante à ce moment-là qui était incarnée par une ancienne de Lanvin, une ancienne d'Albert Elbaz. Et ensuite, au bout de 3 ans, changement d'actionnariat, comme souvent dans ces maisons familiales ou appartenant à des petits groupes. Et du coup, j'ai décidé de monter ma propre agence, mon propre bureau, de conduire ma propre barque. Oui, à peu près il y a 5 ans, en 2018. Mmh. Mes premiers clients sont arrivés en septembre 2018. C'était un moment où je me cherchais, je me disais, t'es DIRCOM, tu vas rester DIRCOM. Et puis la vie en a décidé autrement, et surtout moi, j'en ai décidé autrement en fait. Je me suis rendue à l'évidence que...
T'es quand même très couteau suisse, parce que tu fais du conseil, la communication, du conseil en marketing, et tu travailles l'image aussi.
Oui.
Et il y a autre chose que tu m'as dit, tu as une forte sensibilité produit, et c'est là qu'on sent que tu as bien baroudé dans la mode.
Oui, alors en fait, quand j'ai toujours été une DIRCOM un peu particulière. Je me suis toujours
dis-nous
intéressée.
Tout.
J'adore travailler avec les créatifs. Ça vient aussi à l'époque quand j'ai fait mes études d'art, je travaillais avec des artistes,
peintres, sculpteurs,
etc. La mode, c'est de l'art appliqué, mais c'est une forme d'art qu'on porte. Et en plus, il y a de l'humain, et c'est ça qui est très passionnant. Donc, je me suis toujours intéressée à la fois à la création, forcément du coup au produit. Et en ça, j'étais un DIRCOM assez particulier, puisque j'avais aussi, à un moment donné, lors de mes études, je ne savais pas si faire économie et commerce ou histoire de l'art. Donc, la partie business et économie m'a toujours beaucoup intéressée. Mmh. Je pense que je suis davantage un cerveau droit, comme on dit, donc assez créatif, mais le côté gauche se réveille assez régulièrement. Et je ne fais pas de la com pour faire la com, pour faire plaisir, etc. J'adore toujours la mettre en perspective par rapport à la réalité, aux besoins d'une marque, d'une maison, d'un client. Parce que je ne travaille pas que en mode ou en luxe. Ça m'arrive de travailler
en lifestyle.
Je fais du corporate, donc d'accompagnement de PDG ou de médiatisation, de construction médiatique de personnalité ou de personnes. Donc oui, c'est ma sensibilité pour le produit vient du fait que je m'intéresse aux structures de collection, je m'intéresse à l'offre, au positionnement. Je me revendique absolument pas merchandiseuse. C'est un vrai métier. J'ai plein d'amis qui font ce métier et j'en reconnais la valeur et l'importance fondamentale. C'est grâce à elles ou à eux, à ces profils-là, qu'une collection est juste, bien positionnée, etc. C'est le binôme indispensable d'un créateur. Mais sur les plus petites marques sur lesquelles j'interviens, quand elles n'ont pas les moyens d'avoir un profil senior ou un profil de merchandiser, je peux jouer ce rôle-là. Je suis capable de faire une analyse de structure de collection, de prix, de positionnement de marché, de pyramide... Voilà.
Donc, toi qui bosses avec beaucoup de marques de mode, qu'est-ce qui pêche en ce moment ? Parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont en difficulté. À ton avis, ça vient d'où ?
Alors, les marques qui sont en difficulté, le marché en ce moment est particulièrement dur parce que exigeant, parce que on passe d'une crise à l'autre, donc on n'a pas de moment de répit. Et c'est un marché qui ne pardonne plus l'à peu près ou le manque de créativité. Il s'est clivé. Mmh. C'est un marché qui était presté par l'hyperluxe. C'est très difficile. On a ces méga groupes, d'ailleurs un en particulier, c'est notre premier groupe, c'est le premier groupe mondial en France, etc. Ils tracent tout, ils ont tous les moyens. Donc, ce n'est pas la peine de se dire « je vais être en compétition avec eux, c'est impossible ». De l'autre côté, il y a une créativité comme il y en a rarement eu parce que la jeune génération de créateurs ne se retrouve plus ou de moins en moins dans ces règles de marketing qu'on leur impose, etc. Ces gros groupes font de moins en moins rêver les nouvelles générations. Et donc, on voit, et j'en discutais avec des amis à l'IFM ou dans le milieu de la mode, avant, il y a 15 ans, les élèves de l'IFM rêvaient d'entrer à L'Oréal. Il y a 10 ans, 8 ans, ils rêvaient d'entrer chez LVMH, Richemont, Louis Vuitton, et compagnie. Aujourd'hui, ils rêvent de monter leur boîte. Donc, ce qui va mal, ce sont les marques, je ne parle pas de maison, qui sont nées dans les années fin 70-80, qui ont marqué une époque, qui ne se sont pas renouvelées
voilà,
du
c'est
tout,
ça.
Qui
Manque
étaient
de
sur
renouvellement.
Un modèle, qui ne se sont pas remises en question, qui n'ont pas suivi l'évolution, qui ne se sont pas internationalisées, qui ne sont pas allées sur le digital, ils y sont allés trop tard. qui ont joué la baisse du prix et qui n'ont attaqué le marché que par le prix, à ce jeu-là, il y aura toujours quelqu'un qui va arriver avec un prix plus bas. Et on le voit aujourd'hui avec l'ultra fast fashion qui est en train de disrupter, contre laquelle je suis totalement... Voilà, c'est une horreur. C'est pas ça la mode, c'est comme ce n'est pas l'alimentation industrielle, la vraie alimentation, c'est la même chose. Mais donc les marques qui étaient entre les deux,
ils sont prises en étau
et ils ne servent plus rien. Il y a des consommateurs qui sont tirés par le prix et qui rentrent toujours vers plus bas parce qu'ils se disent comment je fais sinon pour m'acheter 10 t-shirts par semaine. Ma question c'est, a-t-on vraiment besoin d'avoir 10 t-shirts par semaine? Et la réponse, la mienne est absolument pas. Qu'est-ce qu'on achète? Pourquoi on doit acheter 10 t-shirts par semaine? Qu'est-ce que ça cache? Quel est le problème? Aller faire du yoga, aller faire autre chose, Et posez-vous d'autres questions. Et en plus, ça nuit à la planète. C'est tout un système qui a démantelé. En revanche, il y a un vrai essor de création, de nouveautés. On regarde ce qui meurt, mais on regarde peu ce qui naît. Et il y a plein de marques nouvelles qui ne sont pas forcément des marques qui défilent. Il y en a plein aussi dans les défilés. Mais je pense à Patine, je pense à Sœur qui se porte bien. Enfin, toutes ces marques nouvelles qui ont une proposition
un positionnement aussi.
Sur des valeurs... Puis c'est la vie d'une marque de naître, de grandir, de vieillir et parfois de mourir. Et toutes les marques n'ont pas forcément besoin d'être reprises, réveillées.
T'es quand même une passionnée pour parce que quand je t'ai demandé à chaque fois, je demandais à chaque invité de me donner sa définition, une petite définition sur la mode, son rapport à la mode. Toi, tu m'as carrément écrit un pavé avec des phrases type. Alors, on va essayer de les reprendre une par une. Pour toi, donc, c'est ce que je disais, tu me dis que la mode, c'est un peu de la beauté dans un monde de brut.
Oui, c'est une phrase qui avait été utilisée, je crois, sur une publicité de chocolat, de mémoire. Oui, c'est ça. C'est la mode telle que je l'entends, encore une fois, la mode, ce n'est pas du produit. Je parle de la création. Quand on a la chance, comme j'ai... ou comme tu peux l'avoir dans les métiers qu'on fait, d'assister, de voir la naissance d'une collection, de voir le processus créatif de quelqu'un, ça laisse...
Tu m'as dit que ça te faisait rêver. La mode te touche et t'émeut.
Oui. Il y a des moments de grâce, beaucoup de moments de grâce. Je suis pas la seule à le dire, mais il y a des moments, par exemple l'organisation d'un défilé ou le moment d'un défilé, c'est la pointe, l'ultime signe d'un processus créatif. À un moment donné, tout s'arrête, tout converge pour incarner et montrer la vision d'une équipe ou d'un créateur. C'est sublime, c'est un peu comme du théâtre, c'est comme
Et ta mode à toi, est-ce que c'était une façon de te sentir vivante?
Ah oui.
Et de rester enfant, c'est ce que tu m'as dit aussi.
Oui, parce qu'on a un regard toujours nouveau. Moi, j'attends toujours de voir ce qui va se passer après.
Dans ta façon de t'habiller, est-ce que tu t'amuses?
Ah oui. Si je m'amusais pas, c'est s'inventer un personnage. Jeune, j'ai fait du théâtre. Mon frère fait du théâtre, ma sœur fait du théâtre. D'ailleurs, elle est actrice et cantatrice dans une troupe italo-française. On a ce côté-là et petite, je créais mes costumes également. Et du coup, c'est resté.
T'as eu une éducation à la mode ?
Non, pas du tout. Aucun de mes deux parents était dans la mode. Et
pourtant,
puis à Rome,
tu es romaine.
Oui, mais à Rome, la mode était à Milan.
Il y a vraiment une différence entre Rome et Milan.
Oui, la mode, vraiment. Enfin, à Rome, il y a des grandes maisons. Fendi est à Rome. Gucci était à Florence, puis a été à Rome. Maintenant, il va à Milan. Valentino Romain. Mais c'était pas dans la culture de... On n'était pas des modeux, mais pas tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais j'ai toujours vu ma mère faire ses robes. Alors, on n'était pas riches, on était la classe bourgeoisie moyenne romaine, mais maman ou mon père, papa faisait faire ses costumes, s'il était une habitude, ou ses chemises, chez la camisciaia, Il n'a jamais acheté une chemise surfaite, pas pour le luxe, mais c'était le même prix et c'était les habitudes. Enfin, c'était, ça, c'est une tradition assez artisanale italienne. Et ma mère amenait des draps de lin de famille ou des vieux rideaux chez la couturière et qui lui dessinait des trucs. Maman a amené des photos d'Armani.
Oui. Il y avait quand même une sensibilité.
Pour ma mère, Armani, c'est le summum. C'était Armani et Max Mara, donc les deux trucs. Et elle, un tailleur Armani, c'est le summum de l'élégance. Donc, j'ai grandi en pensant que la mode était Armani. Après, j'ai découvert qu'il y avait autre chose. Mais, et voilà. Et, non, mais on n'a pas une éducation particulière à la mode. Je pense que si j'avais été si j'étais née à Milan, j'aurais peut-être eu une autre approche. De temps en temps, je me dis, si je rêvais née en arrière, je ferais peut-être des études de mode.
J'allais te poser la question.
Ouais, peut-être, mais ça s'est pas fait. Je l'ai abordé d'une autre façon, quoi.
Est-ce qu'il y a une différence entre les Italiennes et les Parisiennes au niveau de la mode?
Ah ouais. On dit souvent que les Italiennes achètent une chemise de taille plus petite pour que ça tire bien sur les boutons au niveau de la poitrine, ce qui est pas mon cas. Hein. Mais elle est beaucoup plus voyante. Elle est beaucoup, voilà, il y a
exubérante, féminine aussi, très féminine.
Ça dépend ce qu'on entend pour féminin, hein, parce qu'aujourd'hui tout ça est remis en question et la féminité, elle existe en plein dans le sens ancien ou traditionnel du terme, c'est une femme plus habillée, plus... Il y a encore des buyers italiennes qui me disent « Mais chérie, mais la mode androgyne, ça ne marche pas en Italie. Une femme doit s'habiller pour son homme. » Ce qui me fait tomber les bras. Enfin, c'est un bon truc. Allô. Mais l'effortless parisien, ce qui est un faux effortless, mais oui, c'est la grande différence. Les Italiennes, quand elles sont à la mode, elles doivent le montrer. Elles sont from head to toes. Elles sont total look. C'est plus bling bling par moment. Pas tout le monde, hein, mais sinon, Jill Sander ne serait pas en Italie. Armani ne serait pas en Italie. Voilà. Mais la Parisienne, elle peut sortir avec un chignon fait à la va-vite.
Là, tu es comme une Parisienne.
Moi,
t'as un chignon style... fait à la va-vite.
Ah oui, mes cheveux, c'est toute une histoire.
Mais ouais, quel est ton style?
J'ai essayé. Alors, pendant pas mal de temps, avant d'arriver en mode, j'essayais de cacher le plus possible le fait que je n'étais pas parisienne. On m'a souvent dit aussi dans certaines agences, dans certains métiers de boulot où j'étais, ah ouais, mais t'as pas fait le CELSA. Ah ouais, mais t'as pas fait tes études à Paris. Ah oui, mais en fait, t'es italienne. Et donc, je le prenais.
Ah bon?
Oui, dans des milieux un peu plus corporeux, oui. Ou alors, j'étais rarement en tailleur pantalon à la Hugo Boss. Dans des milieux corporate, ça passait un peu moins bien. Donc, j'essayais. C'est pas que j'en culpabilisais, mais ça faisait étrange, etc. Je passais un peu pour le loup blanc. Quand je suis arrivée dans les milieux plus artistiques, plus mode, etc., le fait d'être italienne, c'était en plus. Ah ouais, t'es italienne. Ah oui, tu parles italien.
Moi, ça me fait rêver. Voilà. Ton accent
donc
me fait
là,
rêver.
Je me suis dit, la mode m'a permis de me réapproprier de mon italianité, d'arrêter de vouloir à tout prix la cacher, d'autant plus que ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, mon style, je ne sais pas, c'est le mien. Alors, on me dit que quand je suis l'été en Italie, en vacances, mon italianité ressort encore plus. De temps en temps, on voit que je ne suis pas parisienne de naissance, mais ça ne pose pas de problème. Je pense que en fait, les vraies parisiennes ne sont pas forcément celles qui sont nées à Paris, qu'on l'est de cœur ou d'adoption. J'adore ce mélange.
Est-ce que tu arrives à te définir ton style ou pas du tout, finalement?
Non, ça dépend. Je n'ai pas une tenue particulière. Souvent, je peux être habillée en noir parce que c'est plus pratique.
À quel âge tu l'as trouvé, ton style? Est-ce que tu l'as trouvé?
Non, ça a changé. Je faisais les remarques en Italie, dans les années 80, je portais des slim, fuseau, des petites bottines et des épaulettes. Je trouvais que c'était super cool et tout. Arrivé à Paris, ça a vraiment évolué. Aujourd'hui,
aujourd'hui, t'es une jeune quinca.
Oui.
On peut le dire.
Oui. Aujourd'hui, je sais ce qui me va, je sais ce qui me va pas.
Et ça, tu l'as su à quel âge?
Je l'ai su vers 45. Mais par exemple, au moment où je travaillais, à l'époque où je travaillais pour Polka, j'étais très peu affinitaire avec le style de Polka. très peu le style traditionnel de Polka, qui est très fichu,
très sobre,
des nœuds, des trucs affûtés. Du coup, comme je devais porter la marque, parce que quand même, quand, eh ben, moi, que je fais un 36 ou un 38, ça dépend, je prenais tout en 40 ou en 42.
Tu surtaillais.
Oui. Et du coup, bah, un pantalon qui était censé être porté taille haute, un peu carotte, ça devenait presque un pantalon masculin parce qu'il tombait sur les hanches.
Tu t'es réapproprié le vêtement.
Oui, une robe patineuse qui devait être très portée, très fitée. En taille 42, ça devenait une robe Prada, avec presque. Enfin, tu vois, mon style, c'était ça. Alors, où j'aime bien casser. Si j'ai une jupe...
là, par exemple, aujourd'hui...
Là, aujourd'hui, j'ai une jupe d'Awe, qui est un créateur chinois. Avec lequel je travaille. Alors, lui est chinois, mais la maison est française depuis toujours. Et j'ai rencontré d'Awe à l'époque de Cacharel, quand il en a été DA. Et puis, en 2018, ça a été lui qui m'a dit, ah bah, si tu as du temps, vu que tu vas te mettre à ton compte, est-ce que tu ne veux pas travailler avec moi? Et donc, on a commencé à travailler ensemble et je suis très heureuse parce que la marque se développe bien et tout. Et le style d'Awe me va très bien. Voilà.
Donc là, c'est une jupe un peu marine, déstructurée, que tu portes avec des baskets.
C'est une jupe en popeline de coton un peu épaisse, très déstructurée parce que c'est le signe de Dawe. Moi, je la porte avec des baskets. Je sais qu'il y a des copines qui ont un autre style. Un jour, on avait la même jupe. Elle le portait avec des escarpins. Ça donnait un style complètement différent. Là, j'ai un t-shirt petit bateau rayé. Alors, les t-shirts petit bateau, je sais que t'adores.
Pour moi, c'est la base. Tiens, voilà. D'ailleurs, c'est quoi la base pour toi? C'est quoi la base de ta garde-robe?
Eh bien, un t-shirt petit bateau ou une chemise blanche. Je porte peu de chemises. C'est plutôt des t-shirts parce que j'aime bien les gros pulls. Donc, une chemise sous un pull, c'est plus compliqué. Mais sinon, c'est oui, un t-shirt petit bateau, un pantalon taille basse. Souvent, un pantalon d'une allure assez masculine, assez androgyne. Ça pourrait, d'ailleurs, quand j'étais chez Cerruti, je portais des pantalons de Cerruti. Ils me les faisaient exprès en taille 44. Le 44, c'est le plus petit, parce que les tailles hommes sont 46, 48, etc. Donc, moi, je me le faisais faire en 44. C'était un gros 38 femmes. Et du coup, ça me plaisait beaucoup. J'ai souvent des vestes masculines, des blazers ou des manteaux que je casse avec soit un escarpin plus masculin, un escarpin féminin, des petits talons, des accessoires féminins. Donc, j'aime beaucoup semer le trouble. Quand j'étais
Tu aimes semer le trouble.
Par moment, c'est-à-dire casser les codes. Je ne vais jamais être dans le premier degré. Ça me dérange. Quand j'étais... là, aujourd'hui, j'ai les cheveux très, très longs, assez longs. J'ai commencé à les faire pousser à 45 ans quand on m'a dit « Mais à 45, il faut commencer à couper les cheveux. À 50, on arrête. »
Oui.
J'ai dit « Mais en fait... mais non, enfin, non. voilà. Et quand j'étais très jeune, j'avais les cheveux très, très courts. On me dit, mais comment? Et j'ai les cheveux très courts, je portais du rouge à lèvres très fort. Donc, j'aime bien jouer les contrastes. Quand j'étais plus jeune, toute jeune, je me faisais appeler Andrea. En italien, Andrea est un nom masculin, uniquement masculin.
Alors que tu t'appelles Laura.
Oui, mais Camille nous a dit, comment tu t'appelles? Andrea. Je sais pas, j'avais ma période. Donc voilà, c'est...
Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais?
Une robe de princesse.
Une robe de princesse?
Ouais, je sais pas, un truc, ça me va pas, j'ai l'impression d'être déguisée.
Une robe de soirée, peut-être? Non.
De soirée de princesse, il faut que ce soit des robes... ouais, je me sens pas particulièrement... une zwer murad, c'est pas du tout mon style. Quelque chose de Balmain, non de plaise à des copains qui travaillent chez Balmain, j'admire ce que fait, mais c'est pas mon style. Versace, c'est pas mon style. Tu vois, tout ce qui est c'est haut talon comme ça, alors j'adore des hauts talons.
Mais avec un tailleur pantalon.
Ouais, et puis c'est pas pratique. Alors là, maintenant, je suis à vélo, à pied.
Oh, le talon sur un vélo, ça peut être très sexy.
Ah, moi, il est sexy, mais pas pratique. C'est 12 cm.
Ah oui, là, non.
C'est plus compliqué.
As-tu le souvenir d'un fashion faux pas?
Sans doute. Ah oui, je sais pas, une fois, j'avais une doudoune d'Awe qui est très particulière. Et je l'ai mise pour aller faire les courses le samedi. Et j'étais, je crois que, je sais pas, c'était peut-être un faux pas par rapport à l'endroit où j'étais.
Mais tu te sentais en décalage, mais en fait, tu t'en...
Moi, non, mais les gens me regardaient bizarre. Alors, il n'y a pas forcément de faux pas aujourd'hui. On peut tout mélanger si on se sent bien. Le faux pas, c'est quand on se sent déguisé ou quand on n'est pas bien. Voilà, quand on se force à porter quelque chose parce qu'on se dit que c'est ce qu'il faut mettre, et du coup, on n'est pas soi-même. Et donc, on n'est pas à l'aise.
Est-ce que tu suis la mode ?
Je regarde ce qui vient de passer.
Qu'est-ce que tu penses, dans le sens, qu'est-ce que tu penses des hit bags, des hit ?
Non,
hit,
non, ouais. Non. En général, quand il y a un hit, j'attends et que tout le monde l'achète. J'attends pour voir, je peux avoir un coup de cœur, mais je me dis, attends pour voir si ça va rester chez toi. À l'époque où tout le monde avait le sac Gérard Darrel, tu vois, je te parle d'il y a quoi, 20 ans,
20
je
ans,
crois, voilà.
25 ans.
Le Charlotte. Mm. Je trouvais que c'était magnifique. Je l'ai acheté 3 ans après parce que j'en avais toujours envie et qu'on ne le voyait plus partout. Les sacs Céline, ça a été la même chose. Céline de Phoebe, ça a été la même chose. J'ai attendu 2 ans après, j'en avais toujours envie, je l'ai acheté. C'est quand ça devient un classique. Donc, quand, pour moi, quand ça devient... non, je suis pas dans le hit.
Je sais que tu as une fille. Qu'est-ce que tu lui donnes ? Tu lui donnes des conseils mode ou pas du tout ?
Alors, non, pas... Enfin, non, non. Elle est totalement... d'ailleurs, Yel est totalement indépendant. et non, elle... Petite, elle était déjà, elle était assez décidée sur ce qu'elle voulait mettre. Aujourd'hui, elle porte du noir principalement. Elle est dans un milieu très artistique, donc non, non. C'est, elle regarde, elle peut piocher dans, dans mon garde-robe, mais sur des pièces très neutres, très genderless.
Qu'est-ce que tu penses, où tu puisses ton inspiration ? Sur Instagram,
écoute,
la presse ?
Non,
est-ce que
parfois,
tu lis encore la presse ? Ou la rue, tout simplement ?
Je lis encore la presse parce que j'aime beaucoup la presse. Les vrais coups de cœur mode, je les trouve en presse. Mais plus aujourd'hui sur la presse de niche, où je trouve encore des très belles séries photos, des signatures photos. Après,
là, on sent l'artiste qui parle.
Bah, parce que la presse féminine est contrainte par des réalités économiques que je comprends et donc ils sont plus commerciaux et puis ils doivent être plus mainstream. Donc, mais j'ai une grande admiration pour le travail qu'elles font. Il a évolué dans le temps, mais le travail qu'elles faisaient à leur début, on le retrouve aujourd'hui sur des titres plus niches, voilà, qui parlent beaucoup moins au grand public, mais qui sont un peu des magazines B2B, quoi, presque, mais que je suis. Et après, mon inspiration, c'est... Non, en fait,
Instagram,
je sais pas.
Instagram, la rue
Non, je ne sais pas te dire. C'est des envies. Je me souviens qu'un jour, il y a longtemps, encore une fois, je n'étais pas encore du tout dans la mode. Je suis passée rue de la Paix et j'ai eu envie d'acheter des repétos, mais pas les ballerines, les vrais chaussons, les demi-pointes. Je me les suis achetées. Je les ai fait ressemeler. Je suis arrivée au bureau avec mes ballerines demi-pointe et à l'époque, c'était une jupe Tara Jarmon blanche que j'ai encore. Ça faisait tutu. Et mes collègues de l'époque m'ont dit « Mais tu vas à l'opéra pour danser ?» Et 2 ans plus tard, c'était l'explosion de ballerines partout. D'où ça m'était venu le fait que j'avais envie de ce truc. Je ne sais pas. Peut-être il y a des signes, des fois où je me dis, tiens, j'ai envie de ça. Non, je ne sais pas,
comme
c'est
ça.
Une fille. Là, je te vois, je me dis, tiens, c'est génial. Tu vois, ce que tu portes, pareil, tu casses pas mal, tu n'es pas jamais premier degré. Donc, je pense, une inspiration, même si je n'en ai pas du tout le physique, et c'est un peu tarte à la crème, le style de Jane Birkin. Bon, bah, malheureusement, voilà, c'est...
Qui vient nous quitter.
Qui vient nous quitter. Pour moi, elle est vraiment la Parisienne. Alors,
voilà. Alors qu'elle est anglaise.
Alors qu'elle est anglaise, mais c'est... Voilà. Et ça a été... C'est d'une élégance extrême, quoi. Un jean, un rien, le geste des cheveux, ce t-shirt.
La parfaite chemise.
Voilà, c'était dans l'élégance, en fait. Elle était dans l'élégance. Et jamais... Et ça, c'est inspirant. Ces femmes-là sont inspirantes. Et des femmes qui ouais, enfin, oui, je ne sais pas
un peu
après d'où vient mon... Ça peut être un paysage, un plat, un truc qui te dit ah, j'ai envie, je regarde un bouquet de fleurs, je lui dis tiens, j'ai envie de porter des trucs imprimés. Mmh. Je ne sais pas, ça se met en résonance.
Quel conseil tu pourrais donner aux auditrices qui t'écoutent et qui n'osent pas ? Qui se disent, moi, j'aimerais bien casser, mais je n'ose pas.
Ah, j'ai des copines aussi comme ça, j'en ai pas mal, en fait, qui me disent non, mais ça, c'est pour toi. C'est... Quel conseil de... C'est compliqué de s'autoriser, d'essayer. Mais après, le problème, c'est que souvent, ces personnes-là ont un entourage qui les a mises dans, qui les a mises dans une case. Qui dit, ah ben non, ça, c'est pas toi. Donc, c'est dur aussi parce que ça veut dire que c'est un coming out.
Après, peut-être s'affranchir du regard des autres.
Ouais. Et quand on est... c'est s'autoriser peut-être d'y aller par petit écart, mais c'est un vaste programme, quoi. Puis pourquoi elles en ont envie, elles ne s'autorisent pas, pourquoi elles ne se voient pas dans ça? Si ça leur fait envie, c'est que c'est elles, en réalité. Elles n'osent pas et les blocages, ils viennent ailleurs. Donc, c'est un long travail, quoi.
Long travail et oser, peut-être aussi.
Oui, oser, c'est pas, c'est ça qui est compliqué. Hein. Quand on se dit, c'est pas pour moi. Si ça fait envie, c'est que c'est pour toi. Donc, c'est pourquoi pas. Pourquoi et pourquoi pas.
Et pourquoi pas, exactement. Tiens. Tu es la dernière invitée de la saison 8. Donc,
très honorée.
Qu'est-ce que tu vas mettre dans ta valise pour partir ?
Ou alors, moi, j'ai des vêtements de vacances qui ne sortent du placard que pour mes vacances. D'ailleurs, il vaut mieux pas me croiser en vacances et je fais tout. Parce qu'en général, je vis avec un maillot de bain. On va dans des endroits à l'envers des jet sets. On évite les endroits où je peux croiser des gens que je connais. Le plus possible. On va en Méditerranée. Je suis une femme de Méditerranée. J'ai besoin du Sol Léon pendant les semaines de vacances. Ma valise est faite de maillots de bain, que je ne porte pas toujours d'ailleurs.
Tu me disais que tu aimais le naturisme.
Oh, ça dépend, mais enfin, voilà,
dans une petite crêpe perdue.
Complètement libre.
Moi aussi.
Voilà. Des pareos. Et des pareos que j'ai ramenés de Syrie quand on pouvait aller en Syrie. Donc, c'est des choses qu'on, malheureusement, on ne peut plus trouver. Des nu-pieds ou une paire de Birkenstock. Et le pareo passe de la plage autour de la taille le soir avec un t-shirt. Donc, c'est
minimaliste.
No make-up, no bijoux, rien.
Oui, parce qu'à propos de bijoux, c'est vrai que tu as toujours, à chaque fois que je te vois, tu as toujours des bijoux ravissants.
C'est mon autre passion et j'ai la chance de travailler pour soit de maisons de joaillerie. Mmh. L'année dernière, c'était Artus Bertrand, avec qui j'ai travaillé pendant 6 mois et c'était génial. J'ai salué l'équipe au passage. Et puis là, j'ai la chance de travailler avec Stéphanie Roger.
Qui a White Bird.
Ouais, oui, White Bird. Donc, d'ailleurs, la quasi-totalité de bijoux que je porte aujourd'hui vient d'elle. Il y a une autre marque aussi avec laquelle je travaille, qui est le collier que je porte, qui est une marque de créateur.
On peut la citer ?
Elle s'appelle La, L-A-H. Donc, c'est une jeune marque créatrice. Voilà, donc oui, les bijoux, c'est des bijoux de peau surtout. Mais,
à propos de bijoux, l'accessoire fait-il une allure ? Finit-il une tenue ?
Oui. On peut chiner des choses au marché aux puces et puis avoir... la chaussure qui va bien ou le bijou. Là aussi, j'aime bien casser.
Mais l'été, là, dans quelques semaines, dans quelques jours...
Alors, la seule chose que je ne tombe pas, c'est ma bague du fiançailles, qui est une bague de famille retravaillée. Donc là, elle ne m'a pas quittée depuis mon mariage. Et je ne l'enlève jamais. Mais pour le reste, je fais le vide.
Quelle est ta définition de l'élégance ?
L'élégance, c'est une élégance de cœur aussi. L'élégance, c'est la générosité, l'altruisme, parfois la retenue, ce qui n'est pas toujours mon fort.
La retenue.
Oui, c'est savoir se faire discret ou se taire si les situations le voilà, ne pas vouloir toujours être sur le devant de la scène. Et une élégance de cœur. L'élégance de cœur.
C'est voilà. Sur ces mots. C'est très beau. Merci infiniment.
Merci à toi, Valérie.
Merci. Je te souhaite un très bel été.
De même.
De même, un très bel été à tous les auditeurs et je vous réserve une surprise pour le prochain épisode. À très vite.
Ciao, Valérie.
Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.